Bienvenue dans ce nouvel enseignement donné par le ministère El Shaddai. Cet enseignement de la parole de Dieu sans compromis vous aidera à grandir spirituellement, à porter du fruit et à prospérer à tous égards comme le veut le Seigneur. Nous en souhaitons une bonne écoute. Que Dieu vous bénisse.
Merci pour le réveil.
Urakoze kwikangura.
Si le réveil nous appartient.
Kuko iri kangura ni ryacu.
C'est toi qui nous l'a donné.
Kuko ni wari duhaye.
Et nous allons le voir manifester.
Turashaka kubibona biba.
Oui, nous voyons venir un réveil.
Turiko turabona ishe
qui embrase ce pays. Qui embrase le monde entier. Et nous voulons être là pour te servir avec humilité et sincérité. Toi soit la gloire. Amen. Vous savez, on doit connaître les temps dans lesquels nous sommes. Est-ce que je pourrais avoir un peu de volume, s'il te plaît? Nous devons connaître les temps dans lesquels nous sommes de manière à pouvoir nous préparer, et quand c'est le temps de franchir une porte, eh bien, de le savoir, de le voir et surtout de le faire. De le faire sans délai et de le faire de la bonne manière. Amen. Vous savez, Dieu a mis dans mon cœur depuis quelques semaines de prêcher à propos de l'obéissance. Et le but de ces messages, ce n'est pas d'offenser ou de viser qui que ce soit de toute façon. Mais c'est pour nous aider à nous préparer afin que nous puissions entrer dans ce que Dieu veut manifester dans ces temps. Si on devait être, si on devrait dire les choses telles que Dieu les voit, je dirais que le réveil, ce n'est pas la volonté de Dieu. Alors ça vous fait frémir, n'est-ce pas? Vous savez pourquoi le réveil n'est pas la volonté de Dieu? Parce que Dieu n'a jamais prévu que l'Église dorme. Quelqu'un qui est toujours éveillé, il n'a pas besoin d'être éveillé parce qu'il ne dort pas. Ce sont ceux qui dorment qui ont besoin d'être réveillés. Et vous savez, le plan de Dieu pour l'Église a été le suivant. Jésus a formé différentes personnes. Parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui suivaient Jésus pendant son ministère. Et principalement, il en a formé 12. Il y en a un qui s'est perdu en cours de route.
Et
on le sait. Ensuite, Dieu s'est révélé d'une façon extraordinaire à Paul, qui est devenu l'apôtre Paul. Et en fait, la volonté de Dieu a toujours été qu'on commence quelque chose, la génération qui suit continue en faisant mieux, non pas parce qu'ils sont meilleurs, mais parce qu'ils bénéficient de l'expérience de ceux qui ont commencé. Vous savez, commencer, ce n'est jamais facile. Quand la première église est née, ce n'était pas facile, ils ne savaient pas quoi faire ni comment faire, ils n'avaient même pas les épîtres, ce n'était pas encore écrit. Ils ont été pionniers en toutes choses. Ils ont dû faire face à certains problèmes qu'ils ne connaissaient pas, dont ils n'avaient aucune idée.
Et
parfois ils ont bien fait, parfois ils ont fait des erreurs.
Ils
ont cherché Dieu. Et la volonté de Dieu, c'était que ceux qui suivent la génération suivante prennent la suite. En faisant mieux. En formant la génération encore suivante qui prendrait la suite et qui ferait encore mieux. Et ainsi de suite, de génération en génération. Et si chacun avait compris cela et avait accompli la volonté de Dieu en faisant ce que Dieu voulait pour sa vie, je vous assure qu'aujourd'hui, ce sont les païens qui se compteraient sur les doigts de la main. Vous comprenez? Moi, personnellement, des fois, j'ai honte.
Je dis,
Seigneur, qu'est-ce qu'on a fait? Aujourd'hui, nous sommes en train de chercher la manifestation du réveil.
Il y a eu
des temps d'endormissement qui ont duré parfois des dizaines, des centaines d'années. C'est seulement dans les années 1900 et quelques qu'on a redécouvert le baptême du Saint-Esprit qui avait été perdu pendant des siècles. Donc l'Église est passée par des temps de réveil, de sommeil, de réveil, de sommeil, de réveil, de sommeil. Et c'est pour ça que nous avons besoin et nous recherchons le réveil. Mais ce n'est pas la volonté première de Dieu. Dieu n'a jamais voulu que les choses soient comme ça. Nous avons un Dieu qui est bon et patient. Amen. Et même chacun d'entre nous, moi la première, je sais vraiment que je devrais être encore plus loin dans le Seigneur. Et on dit, Jésus, aie un peu patience, on commence à comprendre.
Amen.
Donc, pour que nous puissions vraiment rentrer dans la gloire de la parole, les manifestations qui sont promises, nous avons besoin d'apprendre à obéir et faire confiance à Dieu. Ce matin, je voudrais parler avec vous du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël qui avait reçu des promesses extraordinaires et qui a tout gâché parce qu'ils ont refusé d'écouter Dieu, d'obéir à Dieu. Et quand il y avait des obstacles, au lieu de chercher Dieu,
ils
cherchaient à lapider Moïse. Ils s'en prenaient même à Dieu.
Et
je vous assure qu'on a vraiment besoin d'apprendre. Apprendre d'abord de nos erreurs. Apprendre des erreurs des autres. Et comprendre que si le peuple d'Israël avait vraiment écouté et obéi à Dieu,
ils auraient
vu d'autres choses, d'autres réalités. Vous savez, nous sommes sur cette terre. Dieu est le propriétaire de la terre. Mais celui qui en a la gestion, c'est le diable. Donc nous sommes dans une guerre spirituelle. Il y a des conflits entre le monde spirituel de Dieu, le monde spirituel du diable. Il y a des dysfonctionnements à cause des erreurs, des faiblesses des uns et des autres. Différentes choses qui font que Dieu a besoin que nous l'écoutions et que nous lui obéissions. afin qu'il puisse démontrer sa gloire. Comme je vous le disais, Dieu a fait des promesses à Abraham. Et sa volonté à la base, c'était que son peuple qui est né de la postérité d'Abraham marche avec lui tous les jours et de mieux en mieux. Ça, c'est ce que Dieu voulait. Et Dieu a ouvert son cœur à tous ces gens-là. Amen. Il avait annoncé la venue de Jésus. Pratiquement en donnant l'année de la naissance de Jésus, on le voit dans Daniel chapitre
9.
Mais ils ont rejeté Jésus. Ils l'ont insulté. Ils l'ont haï. Parce qu'ils étaient jaloux. Parce qu'il n'était pas prêt et ne voulait pas le reconnaître. Et à la base, ce que Dieu avait prévu, ce que Dieu désirait, il a donné toute l'occasion au peuple d'Israël qu'il se convertisse et que ce soit le peuple juif qui amène le message de l'évangile dans le monde entier. C'est ce que Dieu voulait, c'est ce que Dieu a promis, c'était vraiment le cœur de Dieu. Mais à cause de leur désobéissance, à cause de leur endurcissement, à cause de leur rébellion, ils ne sont pas rentrés dans ces choses. Et ce n'était pas seulement par rapport à Jésus. C'était aussi par rapport à la terre promise et on va en parler ce matin. Et ce que je veux vous dire par là, c'est qu'on peut avoir les plus grands appels, les plus merveilleuses promesses, les plus grandes visions, si nous avons un cœur désobéissant, rebelle et endurci, nous n'entrerons jamais dans ce que Dieu nous a promis.
Ce
n'est pas parce que Dieu veut nous punir, c'est parce qu'il juste, il ne peut pas compter sur nous. Donc, j'aimerais que ce matin, nous puissions explorer la parole de Dieu
et d'essayer
de comprendre comment les choses se sont déclenchées pour que le peuple d'Israël arrive à résister à Dieu, désobéir à Dieu. Qu'est-ce qui a provoqué ça? Parce qu'il faut comprendre que personne se lève le matin en décidant sans raison particulière de ne plus aimer Dieu et de ne plus marcher avec lui. On va aller dans Exode chapitre 17. La première épreuve que le peuple d'Israël va, enfin du moins la deuxième épreuve après être sorti d'Égypte, parce que Dieu va faire d'immenses miracles pour que son peuple puisse quitter l'Égypte.
Ils
vont voir les 10 plaies, la mer Rouge s'ouvrir, ils vont passer à sec et ils vont voir la mer Rouge se refermer sur toute l'armée de Pharaon. Qui a déjà vu des choses comme ça? Moi, je ne lève pas la main, je n'ai jamais vu cela. Vous savez, le peuple d'Israël, il n'était pas né de nouveau. Mais ils ont vu des choses que nous, qui sommes nés nouveaux, nous n'avons jamais vues.
Amen.
De ce fait, ils n'avaient aucune excuse. Vous savez, parfois on est dans la confusion, on ne comprend pas bien, on ne sait pas bien.
Et
on peut se tromper. Je vous dis ça, c'est pour que personne ne se sente condamné. Amen. On ne sait pas forcément tout et on fait des erreurs. Et là, ils ont vu Dieu à l'œuvre d'une façon inimaginable. Des choses qui ne se sont jamais produites auparavant et qui ne se sont jamais produites jusqu'à aujourd'hui. Amen. Ils ont vu la main de Dieu, la grâce de Dieu. Ils ont quitté l'Égypte avec toutes les richesses des Égyptiens. Et Exode 17, ils vont se retrouver dans un endroit qui s'appelle Refidim. Et à
Refidim,
il y a un problème. Le problème qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas d'eau. Vous savez, cela n'a rien d'étonnant. Dans le désert, il n'y a pas beaucoup d'eau. Amen. Il n'y a pas beaucoup d'eau. Et Dieu était en train de diriger son peuple au travers du désert pour l'amener dans la terre promise. Lisons Exode 17 à partir du verset 2. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent: donnez-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit: pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait: pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour nous faire mourir de soif, moi, mes enfants et mes troupeaux? Moïse cria à l'Éternel en disant: que ferai-je à ce peuple? Encore un peu, ils me lapideront. L'Éternel dit: passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiens devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa et Meriba, parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant: l'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas?
Ku murongo wa kabiri gice cya 17 haravuga ngo maze abantu batonganya Mose bati duhamazi tunywe. Mose arababwira ati: muntonganirize iki? Niki kibateye kugerageza Uhoraho? Abantu bahicirwa n'inyota bidodombera Mose bati: wadukuye muri kuri wadukuriye iki muri Egiputa kutwishisha inyota twe n'abantu bacu n'ibitungwa byacu? Maze Mose atakambira Uhoraho ati: mbega aba bantu ndabagire gute ko bashigaje gatoyi bakantera amabuye? Uhoraho abarira Mose ati cha imbere y'abantu ujane bamwe mu bakuru b'Abisirayeli witwaze na ya nkoni wakubitishije rwa ruzi ugende. Eheraba nanje ndahagarara imbere yawe hariya ku gitandara ci Horebu, nawe uheze uje gukubita icyo gitandara. Amazi yisuka avuye muri cyo abantu banywe, Yesu kavuye muri cy'abantu banywe. Nuko Mose abikora atyo imbere y'abantu b'Abisirayeli, yita aho hantu Massa na Meriba, kuko Abisirayeli bamutonganije kandi kuko bagerageje Uhoraho bakabaza ngo mbega Uhoraho ari muri twebwe canke ntari muri twebwe.
Ce que j'aimerais ce matin, c'est que nous puissions examiner ce texte.
Et
à la lumière de ces événements, nous examiner nous-mêmes. Amen. Parce que si nous lisons la parole de Dieu, si nous l'étudions, c'est pour que nous puissions en retirer certaines choses pour notre marche avec Dieu. Donc ici, on voit que le peuple d'Israël marche sous la direction de Dieu. Je vous rappelle qu'il y avait une nuée qui les précédait, qui leur montrait le chemin. Et ils se retrouvent donc à Refidim, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Maintenant, quelle est la réaction qu'ils ont face à cette circonstance? Vous savez, on peut se retrouver dans des difficultés dans la vie. Amen. parce que l'on marche avec Dieu,
parce
qu'on suit ce que Dieu nous dit,
parfois
ça amène des difficultés. Surtout quand on est au début de notre chemin avec le Seigneur. Il peut y avoir des difficultés, des pressions financières. Et au lieu de réagir tel qu'ils l'ont fait, le cœur que ces gens-là auraient dû avoir,
c'est «
Seigneur, tu nous as amenés jusqu'ici.
Tu as fait
de grands miracles, de grands
prodiges.
Et nous sommes persuadés
que
tu vas encore faire quelque chose. » Ça, c'est l'attente que ce peuple aurait dû avoir dans son cœur.
Amen.
Mais directement, les choses ne se passent pas comme ils le veulent.
Et
directement, ils réagissent mal. Amen.
Amen.
Dieu est l'auteur de la solution. Il est un Dieu qui donne des réponses. Quand tu te trouves devant des choses que tu ne comprends pas, première chose, demande à Dieu, qu'est-ce qui se passe? Parce que la première erreur que nous faisons pratiquement tout le temps, une chose arrive et nous l'interprétons sans connaître le fond des choses. Amen.
Amen.
On fait cette grande erreur, bien souvent. Et ça, c'est l'erreur qu'ils ont faite. Ils ont dit, pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte? C'est pour nous faire mourir. Vous savez, les hommes sont toujours les mêmes. Amen. Ce qui a changé, c'est le progrès et les découvertes scientifiques et technologiques, mais le cœur de l'homme est toujours le même.
Et
vraiment, je t'encourage ce matin. Veille sur ton cœur. Veille sur tes réactions. Quoi qu'il puisse arriver, avant de tirer des conclusions.
Seigneur,
il se passe telle chose, montre-moi exactement ce qu'il en est. Et si tu te retrouves né à un mur, ou le pied juste là au bord du précipice, Seigneur, montre-moi comment en sortir. Ça s'appelle marcher avec Dieu. Une vie de relation, de communication, là où tu parles à Dieu et là où Dieu te répond. Mais bien trop souvent, une chose arrive, on se fâche, on s'énerve, on crie, on pleure, on gémit. Il y en a certains qui vont même jusqu'à accuser Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu m'as fait? Dieu ne t'a rien fait.
Amen.
Et quand on n'y prend pas garde et qu'on se permet ce genre de réaction, ce qui va se produire, c'est qu'un petit peu plus loin sur le chemin, on ne sera plus capable de suivre Dieu et de lui obéir. Comme je vous le disais, Dieu veut nous faire entrer dans de grandes choses. Mais pour que Dieu puisse nous faire rentrer dans ces grandes choses, il doit s'assurer qu'il peut compter sur nous. Amen. La première étape de la vie chrétienne, c'est apprendre à faire confiance à Dieu. La deuxième étape, Dieu doit être sûr qu'il peut nous faire confiance. Parce que si à chaque fois qu'une chose va de travers, on se met dans tous nos états, qu'on crie, qu'on pleure, qu'on se fâche contre les serviteurs de Dieu, qu'on se fâche contre Dieu,
eh
bien, quand on réagit comme ça, on se comporte exactement comme le peuple d'Israël. Et Dieu avait une solution.
Amen.
Dieu avait une solution. Lui qui a été capable d'ouvrir la mer Rouge. Il était capable de leur donner à boire.
Vous
savez, nous devons vraiment faire attention à notre cœur. Dire Jésus, je t'aime, mais que ça soit véritable et sincère. Donc ils se sont mis à murmurer. Ils ont voulu même aller jusqu'à lapider Moïse. Et Dieu va donner une direction pour la délivrance. Ils vont avoir de l'eau à boire. Et là, avant qu'on aille plus loin, vous savez, ça arrive à tout le monde de faire même ce genre d'erreur. Et si cela arrive, nous avons une solution que nous devons appliquer dans nos vies immédiatement. Ça s'appelle la repentance. Amen. La repentance, ce n'est pas seulement juste pour la nouvelle naissance, voilà, je suis sauvé. Mais la repentance, c'est reconnaître ses fautes. Les délaisser, mais s'en rappeler. Non pas pour se condamner soi-même, mais pour ne pas recommencer. Amen. Le peuple d'Israël n'a jamais su, il n'a jamais voulu fonctionner comme cela. Parce qu'on voit Exode 17, nous venons de lire le passage. Il manque d'eau, il murmure, Dieu donne de l'eau, ils ont mal réagi, ils auraient dû se repentir, ils auraient dû préparer une délégation pour aller voir Moïse et dire vraiment, on demande pardon. Non seulement ils ne l'ont pas fait, mais quand on arrive dans le livre des Nombres, bien longtemps après, au chapitre 20, verset 2, on voit que la même situation, exactement la même chose, va se reproduire. Et quand cette chose va se produire à nouveau, ils vont déjà être disqualifiés pour la terre promise. On va revenir à la terre promise un petit peu après, mais déjà je veux aller dans Nombre. Nombre chapitre 20, verset 2. Alors, le peuple s'arrêta à Kadès, ça c'est la fin de... du verset 1, c'est là que mourut Marie et qu'elle fut enterrée. Il n'y avait point d'eau pour l'assemblée et l'on se souleva contre Moïse et Aaron. Le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, que n'avons-nous expiré quand nos frères expirèrent devant l'Éternel? Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert? Pour que nous y mourions, nous et notre bétail? Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour nous amener dans ce méchant lieu? Ce n'est pas un lieu où l'on puisse semer. Il n'y a ni figuier, ni vigne, ni vigne, ni grenadier, ni eau à boire. Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. Ils tombèrent sur leur visage et la gloire de l'Éternel leur apparut. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher, et Moïse leur dit, « Écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau ?» Puis Moïse leva la main et frappa deux fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance, l'assemblée but et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Ce sont les eaux de Meriba où les enfants d'Israël contestèrent avec l'Éternel qui fut sanctifié en eux. Amen. On va pas lire en Kirundi. Amen. Donc là encore, la situation se représente. Vous savez, la Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 5, verset 21, de nous soumettre les uns aux autres. Et qu'est-ce que ça veut dire se soumettre les uns aux autres? Ça veut dire avoir un esprit enseignable. Vous savez, Dieu a voulu qu'il y ait des autorités, que chacun ait un rôle, une place, une fonction. Et se soumettre les uns aux autres, ça ne veut pas dire que nous devons marcher dans des directives des personnes qui ne sont pas en autorité. Ça ne veut pas dire cela. Mais ça veut dire avoir un esprit enseignable. Vous savez, quand on désobéit à Dieu une fois, quand on se rebelle, quand on a une mauvaise attitude, qu'on voit les conséquences, et que malgré cela, on voit la générosité, la bonté, la fidélité et l'amour de Dieu, on a besoin de se repentir et de s'en souvenir. Parce qu'un jour ou l'autre, la même situation va se représenter. Peut-être pas exactement dans les mêmes conditions, mais ça va se représenter. Et que quand ça arrive pour la deuxième fois, que tu aies pris bonne note et que tu ne recommences pas les mêmes erreurs, ayez confiance en Dieu, obéissez à sa parole, marchez dans sa volonté sans aucun murmure. Et on a vraiment besoin d'avoir un cœur enseignable, apprendre des leçons. Demande à ton voisin, est-ce que tu as déjà appris des leçons en français?
Est-ce que tu as déjà appris des leçons?
C'est moi ton voisin.
Est-ce que tu as déjà appris des leçons?
Oui, beaucoup, vraiment.
Moi aussi.
Amen. Demande-le en Kirundi maintenant. Vous savez, quand on apprend ces leçons, Dieu ne s'en souvient même pas. Vous savez, Dieu n'est pas impressionné par nos erreurs.
Ce
n'est pas parce qu'on fait des erreurs, même parfois de graves erreurs, que Dieu nous rejette. Dieu aime quand nous apprenons les leçons de nos erreurs. Et que nous changeons. Amen.
Amen.
Amen. Et là, on voit le peuple d'Israël, il n'a rien appris. Ils auraient dû se dire les uns aux autres, au fait, tu te rappelles l'autre fois quand on était à Refidim? Dieu nous a donné de l'eau. Alors ça ne sert à rien de se fâcher, de se rebeller. Et ils ont été tellement loin, qu'ils ont amené Moïse à pécher. Vous savez, Moïse, il a péché tout seul. Et vous savez, parfois, il y a des choses qui se passent et on réagit mal. On se dit, et avant que ça n'arrive, on se dit, je dois réagir comme ça. Je sais que moi, ça m'est arrivé cette semaine. Je dois réagir comme ça. Et puis finalement, je suis tellement énervée que je réagis mal. Et après, je dis, Seigneur, je savais comment je devais réagir. J'avais pris la décision de le faire. Et je ne l'ai pas fait. Et je te demande pardon. Amen. Amen. Donc là, ils ont amené Moïse à pécher contre Dieu. Amener Moïse à désobéir. Parce que Dieu avait dit à Moïse, parle au rocher. Et Moïse a frappé deux fois le rocher.
Mose aca kubita kabiri igitandara.
Vous savez, à grand appel.
Nukuvuga ngo umuhamagaro munini.
Grande puissance,
ubushobozi bwinshi,
ça demande de grandes responsabilités.
Et
ça exige une grande obéissance. Amen.
Amen.
Nous devons apprendre à obéir si nous voulons être utilisés par Dieu. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Moïse a perdu. Il a perdu sa... Il a été puni. Il a été puni, on le voit dans Exode 32. Exode 32, versets 48 à 52. La punition de la désobéissance. Exode 32, versets 48 à 52.
48 à 52.
48 à 52. 32, 48 à 52. Non, c'est pas la bonne. c'est pas la bonne référence. C'est pas grave. On va voir comment Aaron a été puni. C'est Nombre 20 à 24. Excusez-moi, je me suis mélangée dans les références. Nombre 20 à 24. 20 à 24, nombre 20. Nombre 20, verset 24, pardon. Aaron va être recueilli auprès de ton peuple, car il n'entrera point dans le pays que je donne aux enfants d'Israël, parce que vous avez été rebelles à mon ordre aux eaux de Meriba.
Murongo wa 44 haravuga ngo ati Aroni agiye gutambura hamwe y'ababo ntakigiye mu gihugu nemeye guha Abisirayeli kuko mwase kumvira ijambo ryanje muri mu mazi y'Imeriba. Amen.
Amen. On voit que même Aaron est également associé à cette punition.
Murabona yuko namo na Aroni nawe yagiye mu bihano.
Parce que Aaron aurait pu dire mais moi je n'y suis pour rien, c'est Moïse tout seul. Mais Dieu n'a pas vu les choses de cette manière-là. Amen. Ça leur a coûté cher. La désobéissance. Dieu reproche cet endurcissement dans Psaume 95.
Psaume
95, verset 8. Où il est dit, n'endurcissez pas votre cœur comme à Meriba. Verset 8, n'endurcissez pas votre cœur. N'endurcissez pas votre cœur comme à Meriba. Vous savez, l'endurcissement de cœur avec la rébellion, la contestation, produit obligatoirement la désobéissance. Donc, on a vu ces deux passages dans Exode 17, quand il manquait d'eau, puis dans Nombre 21, quand ils ont encore, Nombre 20, ils ont encore manqué d'eau, ils ont eu la même réaction. Mais entre ces deux événements, il y a un autre événement qui va se produire et qui va les disqualifier complètement pour ce qui concerne les plans de Dieu. Amen.
Amen.
Vous savez, nous devons tirer des enseignements, des expériences des autres. Dans Nombre chapitre 13 et 14, on voit que Dieu veut tester le peuple d'Israël. Et si Dieu teste, ce n'est pas parce que Dieu a besoin de savoir, parce que Dieu sait de toute façon. Amen. Mais si nous passons des tests, c'est pour nous-mêmes. Et regardez un petit peu ce qui se passe dans les écoles. Si on prend une classe de primaire, de secondaire ou d'université même, et qu'on dise à la personne, à l'enfant, au jeune qui est là, quel est ton niveau? Est-ce que tu penses que tu peux passer dans l'année supérieure? Il y a des gens qui sont honnêtes avec eux-mêmes qui vont dire oui, vraiment, je suis tout à fait capable. D'autres qui vont se tromper eux-mêmes en pensant qu'ils sont capables alors qu'ils ne sont pas capables. Et d'autres qui ne sont pas sincères du tout, qui disent « Oui, moi je dois passer dans la classe supérieure, je suis vraiment un excellent élève. » Et le but des examens, le but des tests, est fait pour révéler le véritable niveau de la personne qui est candidate pour passer dans la classe suivante. Vous comprenez? C'est pour ça que Dieu a voulu que le peuple d'Israël soit testé. Dieu connaissait très bien et parfaitement bien le niveau de son peuple.
Il
connaissait son cœur contestataire, endurci, rebelles, désobéissant. Mais Dieu leur a donné une chance. Parce que Dieu est un Dieu de première chance et de deuxième chance. Mais faisons attention de ne pas lasser la patience de Dieu. Parce qu'au bout d'un moment, Dieu va choisir quelqu'un d'autre.
Et
Dieu a des plans, des visions, un appel pour ta vie. Et ma prière, c'est que tu y rentres parfaitement et que Dieu ne choisisse pas quelqu'un d'autre. Vous allez me dire, ça ne peut pas arriver. Bien sûr que ça peut arriver. Pour mille et une raisons. Je pense que tout le monde a entendu parler de Catherine Kuhlmann. C'était une femme qui avait un ministère vraiment de guérison, une grande évangéliste que Dieu a puissamment utilisée.
Et
le monde de son époque était quand même étonné. Comment est-ce que Dieu a donné un tel ministère à une femme? J'espère que maintenant le monde n'est plus étonné du ministère des femmes. Parce qu'en Christ, il n'y a ni homme ni femme. Amen. Donc, on lui avait posé cette question, mais comment ça se fait que ce soit toi qui aies ce ministère? Et cette femme, elle a répondu la chose suivante. Avant moi, Dieu a appelé d'autres personnes, mais ils n'ont pas obéi. Parce qu'ils savaient que le prix à payer était trop grand. Parce qu'ils ont préféré leur propre vie. Peut-être parce qu'ils avaient des exigences. Ils n'étaient pas prêts à cela, ils ne voulaient pas cela. Ils n'ont pas obéi à ce que Dieu leur a dit. Et moi j'ai obéi, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui.
Amen.
C'était vrai pour Catherine Kuhlmann. C'est vrai, ça a été vrai pour d'autres serviteurs de Dieu. Vous savez, parfois on voit des serviteurs de Dieu qui ont de grands ministères. Et quand on regarde, on voit quand même certaines imperfections. Et on se dit, tiens, pourquoi est-ce que Dieu a choisi celui-ci, Dieu a choisi celle-là? Il y en a tellement d'autres, qui seraient mieux à sa place. Et la réponse à cela, Dieu a trouvé en eux des cœurs obéissants. Amen. Et pour le peuple d'Israël, Dieu les envoie 12 espions pour qu'ils aient exploré le pays. Et Dieu savait fort bien ce qu'il y avait dans le pays. Il savait qu'il y avait des villes fortifiées, il savait qu'il y avait des géants. Et il avait prévu de délivrer son peuple de toute la puissance de l'ennemi. Une ville après l'autre, jusqu'à temps qu'il rentre en possession de toute l'intégralité du pays. Et d'ailleurs, même quand plus tard ils sont rentrés dans le pays avec Josué, ils n'ont toujours pas obéi entièrement aux ordres de Dieu,
de
sorte qu'il y avait des ennemis qui étaient restés sur le territoire et qui ont été ensuite une occasion de chute. Vous savez, il est important de faire ce que Dieu nous demande comme il nous le demande. Donc, les 12 espions reviennent avec leur rapport. Et voici verset 27, on est dans Nombre 13, verset 27. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Verset 27.
Twarashitse mu gihugu wadutumye mwo kandi nivyo kuri koko gitemba amata n'ubuki kandi ngivyo ivyo twamuyeyo.
Et ils auraient dû en rester là.
Babwirizwa guhagarikiraho.
Ils n'auraient pas dû ajouter ce qu'ils ont ajouté après.
Babwirizwa gushira ko ivyo bongeye ko mu nyuma.
Ce qu'ils ont ajouté après montre qu'ils n'avaient pas confiance en Dieu.
Ico bongeye ko mu nyuma cagaragaje ko batagira kwizera ku Mana.
Soumis à l'autorité de Dieu sur leur vie.
Donc au verset
28, il commence à dire « Mais le peuple qui habite ce pays est puissant, les villes sont fortifiées, très grandes, nous y avons vu les enfants d'Anak et différentes personnes. »
Ibisagara byabo bizitijwe n'inzitiro z'amabuye kandi n'ibinini cyane eka mbere twabonyemwe abanaki.
Et regardez ce qu'ils vont dire au verset
31.
Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous.
Aravuga ngo ngo ariko abari baraduganywe nawe bati ntitwoshobora kuduga ngo
nous ne pouvons pas. Vous savez, l'apôtre Paul le dit dans Philippiens, je pense que c'est
4:13.
Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Et quand on a la parole de Dieu au-dedans de nous, nous savons que nous pouvons obéir à tout ce que Dieu nous demande. Parce que Dieu ne nous demandera jamais des choses qui sont impossibles. Ça peut être impossible à nos propres yeux. Ça peut être impossible à nos capacités naturelles, intellectuelles ou physiques.
Amen.
Mais si Dieu nous le demande et que nous voyons que c'est impossible, on est en droit de nous attendre
à
un miracle. Amen. Si Dieu me dit, grimpe sur le poteau ici, je sais qu'ici, il y a des jeunes qui sont capables de le faire, moi, vraiment, même pas 5
cm,
vous voyez. Alors, si Dieu me dit, grimpe sur ce poteau, je vais peut-être avoir un petit moment de panique.
Et
je vais dire, oh là 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 là. Mais au bout de quelques instants, en tout cas moi, je vais me reprendre. J'ai dit, ok, on y va. Seigneur, envoie-moi
l'ascenseur.
Vous savez, nos mentalités, quand elles ne sont pas renouvelées par la parole de Dieu, elles sont un piège pour notre vie. Elles nous amèneront à désobéir, à contester, à dire et à faire ce qu'il ne faut pas faire. Donc les 10 espions, ils répondent ça. Nous ne pouvons pas, les 10. Mais par contre, Caleb et Josué vont dire, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. C'est le verset
kumurongo wa 63 baravuga ngo maze Kalebu yamira abantu bariko baridodombera Mose aravuga ati nimuze tuduge ubunyene tuhashikire.
Et là, le peuple d'Israël entend deux paroles, deux discours. Il entend la parole d'incrédulité et il entend également la parole de foi. Montons, nous y serons vainqueurs. Et là encore, vraiment, écoutez bien. Ils vont faire le choix de la parole d'incrédulité. Face à chaque situation, chaque circonstance de notre vie, nous entendons toujours différents types de paroles. Quelle parole choisis-tu? Quelle parole choisis-tu? Tu vas entendre des paroles d'incrédulité, ça c'est inévitable. Mais tu vas aussi entendre une parole qui vient de Dieu, une parole de foi. Obligatoirement. Dans chaque situation, tu entendras des paroles d'incrédulité qui viennent des hommes, des choses qui viennent du diable pour te faire tomber. Mais tu entendras aussi une parole de foi pour ta vie. Est-ce que tu vas être capable de la reconnaître? Êtes-vous capable de reconnaître quand c'est Dieu qui vous parle? Ou est-ce que la parole que Dieu vous donne, vous la mettez au même niveau que n'importe quelle autre parole? Vous savez, quand on a du respect pour la parole de Dieu, on la reconnaît immédiatement et on décide de rejeter toutes les autres choses. Ce que Dieu m'a dit, c'est ce qui va se produire. Je me tiens dessus quoi qu'il arrive. Quoi que je vois, quoi que je sente, je me tiens sur cette parole. Et quand tu prends cette position, tu vas voir des miracles. Et eux, toute cette génération, ils n'ont vu aucun miracle. Enfin, ils ont vu des miracles, mais ils ne sont pas rentrés dans le pays promis. Ils entendent une parole de vie, une parole de foi, une parole de quelqu'un qui connaît Dieu. Mais une fois encore, ils vont se soulever. Ils vont se révolter. Ils vont se rebeller. Ils vont dire, nommons-nous un chef. Nommons-nous un chef. Nommons-nous un chef. On va se nommer un chef. Retournons en Égypte. Retournons en Égypte. Parce que c'est pour nous faire mourir qu'on nous a amenés jusqu'ici. Ils ont rejeté la bonté parce que Dieu a pris soin d'eux. Dans le désert, aucun n'était malade. Leurs vêtements ne s'usaient pas. Ils étaient nourris chaque jour. Mais ils ont rejeté Dieu. Et pourtant, on leur dit encore, ne soyez point rebelles contre l'Éternel. Verset 10, toute l'assemblée parlait de les lapider lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation. Verset 10, 14-10.
Kumurongo wacume mongi shengero ryose riraheza rivuga ko babicisha amabuye maze ubwiza bw'Uhoraho ubu.
Et écoutez bien ce que Dieu dit au verset 11, au chapitre 14. L'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand me méprisera-t-il? Vous savez ce qui est dans nos bouches? N'est pas forcément le reflet de ce qu'il y a dans notre cœur.
Et
vraiment là où je veux absolument vous encourager ce matin, c'est que ce qui sort de votre bouche soit conforme à ce qui sort de votre cœur. Dans le sens où si vous dites, Seigneur, je t'aime vraiment de tout mon cœur, je veux marcher avec toi. Je te suivrai jusqu'où tu voudras m'emmener. Je ferai tout ce que tu me voudras que je fasse.
Eh
bien, que ça soit également dans votre cœur. Et ça, on peut mettre ces choses dans nos cœurs.
Amen.
Amen. On peut mettre et on doit le faire. Tu dois le faire. Et dire, Seigneur, je l'ai dit, mais j'en prends aussi fermement la décision. Parce que je veux que tes plans réussissent. Que ton appel soit manifesté. Je veux inconditionnellement être obéissant. On va terminer avec un passage dans 1 Corinthiens au chapitre 10 pour que nous puissions vraiment méditer sur nos vies, sur nos attitudes vis-à-vis de Dieu. Et si on parle de ces choses aujourd'hui, c'est parce que le meilleur vraiment reste à écrire.
Et
dis à ton voisin, nous n'allons pas passer à côté de ce meilleur.
Amen. 1
Corinthiens chapitre 10. On va pas lire le début du chapitre parce que ça parle justement de ces péchés que le peuple d'Israël a commis. Verset 5. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu.
Kumurongo wa gatanu wa gatanu bavuga ariko abenshi muri bo Imana ntiyabashikanye ntiyabashimye kuko bahonerejwe mu bugaragwa ariko ivyo vyatubereye akarorero kugira ngo nitwifuze ibibi nkuko babandi bavyifuje.
Verset 9. Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Amen.
Kumurongo wacu bavuga ngo kandi ntimukidodombe nk'uko bamwe muri ba bandi bidodombye bakamarwa n'umuranduzi ariko ivyo vyababaye ko kugira ngo bitubera karorero kandi vyandikiwe kuduhanura twebwe abashikwako n'amasezerano y'ibi bihe. Amen.
Et je voudrais lire encore dans Exode chapitre 34.
Nago masome kandi mu gusubiramo igice kuvayo igice cha 34.
Exode 34.
Kuvayo igice cha
34.
Verset 6 et 7.
Quand le Seigneur apparaît à Moïse, il dit la chose suivante.
Yaravuze ngo,
et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel Dieu, miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent. Amen.
Kumurongo gatandatu ndi nguhoraho aca imbere yiwe arivuga ati nduhoraho Imana yuzuye imbabazi n'ubuntu ntibakuraka ngira ikigongwe cinshi mpora ndumwizigirwa nama ngirira imbabazi abantu ibihumbi n'ibihumbi mparira ibigabitanyo n'ibicumuro n'ivyaha ariko simperereza urubanza kutarugira mpora abana ibwabitanyo vyabase nkageza kubuzukuru no kurunganwe rwabo rugira gatatu no kurugira kane. Amen.
Voulons remercier le Seigneur pour sa patience,
turashaka gushimira Imana
pour sa bonté, pour sa fidélité. Mais nous aussi, nous voulons et nous devons prendre des décisions de recevoir la parole de Dieu avec un bon cœur et de lui obéir quoi qu'il nous dise afin que nous puissions entrer dans son meilleur. Amen.
Amen.
On va prier ensemble. Seigneur, merci. Merci parce que tu es un Dieu merveilleux. Parce que tu veux nous donner le meilleur. Et le meilleur, c'est de te voir agir. Le meilleur, c'est de voir le réveil. Non seulement le voir, mais en plus le voir grandir et continuer même après notre départ de cette terre. Nous voulons voir le réveil et nous voulons demeurer dans ces choses. Seigneur, nous avons compris que tout dépend de nous, de notre attitude, de notre cœur, de nos réactions. Je prie, Père, dans le nom de Jésus, afin que ton merveilleux Saint-Esprit puisse travailler davantage nos vies, afin que tes plans et tes projets puissent être manifestés comme tu l'as prévu. Seigneur, nous devrions être, nous les chrétiens du monde, en plus grand nombre depuis toutes ces années, depuis le commencement de l'Église. Nous devrions être arrivés à un point où l'Église est puissante, agissante, reconnue et respectée par le monde entier. Mais au lieu de cela, nous avons failli à notre mission. Non pas nous personnellement, mais l'Église d'une manière générale, qui est passée par des temps de réveil et de sommeil, et qui n'a pas progressé comme elle aurait dû le faire. Et Seigneur, nous ne pouvons pas te demander pardon pour les fautes des autres, mais nous en prenons bonne note. Et nous voulons vraiment de tout notre cœur que ce temps dans lequel nous vivons soit un temps particulier dans lequel tu es glorifié par des hommes et des femmes qui te donnent vraiment leur vie, qui sont prêts à t'obéir et à te suivre là où tu les amèneras. Merci. Merci pour le Saint-Esprit que tu as envoyé à nos côtés pour nous soutenir, pour nous enseigner, pour nous aider.
Nous espérons que cette parole vous a exhorté, édifié et réconforté, et qu'en la pratiquant, la gloire de Dieu se manifeste au travers de vous sur terre. Nous vous invitons aussi à consulter le site www.enseignemoi.com. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez nous contacter pour d'autres enseignements, appelez-nous au 00 257 22 24 13 39 ou par email mesburundi@yahoo.fr.
Merci parce qu'il est fidèle pour la cause de Kwera Yuko Armizigi.